Bonsoir, mesdames, et bonsoir, messieurs. En commençant comme ça, je suis déjà entré dans le sujet. C'est un sujet qui nous concerne tous. Et au nom de l'association Valaisanne des Amis de Philanthropos, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée, qui sera non seulement une conférence, mais aussi ce que j'ai trouvé très beau, c'est une méditation. Dans mon esprit, une méditation, ça veut dire que ce n'est pas seulement le conférencier qui réfléchit, mais c'est aussi nous tous en même temps, de manière active. Le père Mark Doherty, j'essaie de prononcer, my English is poor, the sailor is rich, on dira, est donc un Américain, un prêtre américain, ordonné en 2014, et qui a un curriculum vitae, je vais voir ici, que je vous épargnerai. Mais enfin, on y trouve quand même quelques éléments très intéressants. Par exemple, on apprend qu'il est maître en divinité, master of divinity. Ce qui veut dire, en fait, il a un master en théologie qui lui permet d'exercer comme prêtre sur le territoire américain. Mais il n'a pas que ça, il a également Master of Arts et Philosophical Resources, le tout avec summa cum laude. Enfin, c'est vraiment. Voilà, il a une longue carrière d'études, mais aussi d'activité, puisqu'il a été actif dans le diocèse de San Francisco comme prêtre dès son ordination. Il est actuellement dans le collège des consultants de l'archevêque de San Francisco. Il a même été aussi entraîneur de football dans le lycée où il a enseigné. Il m'a dit que c'était tout à fait normal aux États-Unis. Et il écrit aussi dans Catholic San Francisco. Voilà, donc il a beaucoup, beaucoup d'activités, mais il est surtout ici pour nous ce soir à Martigny. Pourquoi est-il à Martigny? Pourquoi est-il en Suisse? C'est bien parce qu'il travaille à un doctorat en théologie morale à l'université de Fribourg. Et c'est un plaisir de le recevoir ici et je vais donc lui passer la parole.
Merci. Ça fait très plaisir d'être parmi vous ce soir. Je ne vais pas m'asseoir, c'est beaucoup trop européen ça. Donc venant des États-Unis, quand on est prof au lycée ou à l'université, on ne peut pas s'asseoir, il faut marcher. Il faut marcher, donc je vais marcher. J'ai été pendant des années prof de lycée, dans plusieurs lycées en Californie surtout, et donc je n'ai pas du tout l'habitude de m'asseoir, donc si ça ne vous gêne pas, je vais rester debout. Et si ça vous gêne, je suis désolé. Ça fait très bizarre pour un Américain que le prof soit assis. On va commencer avec quelques remarques préliminaires. Il est toujours important de prendre conscience de nos préjugés quand on entame une certaine conversation, un débat, un projet intellectuel, de prendre conscience de certains de nos préjugés. Surtout étant donné que nous sommes tous nés dans un monde moderne, dans une époque contemporaine, qui, parmi d'autres choses, tient en tête certains points de vue, disons, très cartésiens. René Descartes, bien sûr, philosophe français, né en 1596, décédé en 1650, nous a passé quelques indices très importants dans notre époque moderne, mais qui, en fait, ne nous aident pas vraiment à comprendre, à saisir de manière plus profonde et correcte certains points essentiels de notre essence, de notre nature humaine. Surtout, le point que Descartes essayait de faire, c'est-à-dire de diviser la réalité entre la dimension mentale et la dimension matérielle. Là, ça ne va pas marcher. Et en fait, les découvertes scientifiques de notre époque nous montrent de plus en plus qu'en fait, Aristote, un des grands philosophes classiques de l'Antiquité grecque, avait plus raison quand lui, il essayait de nous convaincre, de nous expliquer qu'en fait, il y a un rapport très proche entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Cela dans la réalité, dans le cosmos, mais le sujet de ce soir, c'est par rapport à notre être nous-mêmes, les humains. Donc nous, on va partir du point de vue que l'esprit de l'homme est profondément rattachée au corps de l'homme, et que la dimension matérielle, dans ce cas-là la dimension de notre corps, nous donne des indices très importants par rapport à la réalité spirituelle de notre être. C'est là où on va commencer. Deuxièmement, Descartes nous a proposé un point de vue quasiment entièrement mathématique, quantitatif. C'est-à-dire la réalité, les choses les plus vraies, sont à la base des réalités mathématiques qu'on peut réduire aux chiffres. Mais en fait, ce n'est pas exactement le cas. Aristote nous dirait plutôt qu'à la base, il faut chercher le niveau qualitatif. Et donc c'est de là aussi qu'on va partir, que la réalité de l'homme est une réalité qualitative à la base. Ce qui voudra dire, parmi d'autres choses, quand nous parlons de la masculinité, de la féminité, nous parlons d'une réalité qualitative principalement. Ça va nous aider à échapper aux pièges dans lesquels on a l'occasion de tomber assez souvent, les pièges dans lesquels on se dit « Ah ok, d'accord, le masculin c'est caséen, très bien, la ligne très droite, Descartes serait très fier de nous, tac 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 tac, tac 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 tac, et puis la case féminine, là, très bien délignée, avec des lignes, etc. » Non. En fait, nous parlons de réalité qualitative, donc nous parlons d'un spectrum, si vous voulez, comme les couleurs, où il y a plutôt des points d'appui qui s'accentuent de plus en plus du côté féminin, des points d'appui qui s'accentuent de plus en plus du côté masculin. Et ça nous permettra à échapper aux pièges et aux peurs qu'un tel discours peut susciter à l'intérieur de nous en se disant, alors là, le prêtre, il nous fait un discours et il me dit que la femme, c'est ça, et l'homme, c'est ça, et puis c'est fini. Quand en fait, la réalité est beaucoup plus subtile, profonde, mystérieuse et en fait belle. Ok, cela étant dit, nous allons commencer. Et nous allons commencer avec une première lecture, les premiers versets, versets 1 à 18 du chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean, où Jésus rencontre Marie-Madeleine. Donc nous allons commencer du côté féminin, et puis de là, nous entamerons le côté masculin. Nous allons commencer avec le côté féminin. Donc, si Vincent pouvait nous lire ces premiers versets. Et faites attention et gardez en tête, si vous pouvez, ce récit de la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine.
De l'Évangile selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Et elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. » Jésus lui dit « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et qu'il lui a dit cela.
Donc gardez ce récit en tête pendant que nous parlons un petit peu du côté du charisme féminin. Comme je l'ai constaté, la dimension matérielle nous donne des indices par rapport à la dimension spirituelle. Et donc le corps de l'homme nous donnera des indices par rapport à la réalité spirituelle, l'essence plus profonde de ce que c'est d'être un homme, de ce que c'est d'être une femme. Au premier abord, l'indice qui nous aide le plus, c'est le sexe. Et là, donc, ce que nous remarquons, c'est que le sexe féminin est un sexe qui est orienté vers l'intérieur. Et ça, déjà, ça va nous aider énormément à comprendre l'essence du charisme féminin. En effet, le charisme féminin est un charisme caractérisé principalement par une énergie, une force, une puissance d'attraction. Ça se voit, par exemple, dans la beauté du physique féminin, un aspect qui se distingue du côté masculin. Le charisme féminin est un charisme d'attraction, qui en soi veut dire que des dons qui sont donnés au côté féminin de la part de Dieu sont une capacité, un don pour cultiver l'intégration et pour développer des liens, des rapports interpersonnels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Capacité, puissance d'attraction et d'intégration. Ce que nous remarquons, c'est que, en général, chez les femmes sont plus développées, ont une plus grande capacité pour intégrer toutes les dimensions de leur être. C'est-à-dire qu'en général, une femme mûre a une capacité de intégrer la dimension émotionnelle, psychologique, intellectuelle et le corps de manière plus intégrale que chez l'homme, chez le garçon. L'homme sera beaucoup plus compartimenté dans sa nature. Mais la femme a un don exceptionnel pour intégrer tous les aspects de sa personnalité à l'intérieur d'elle-même. De plus, ce que nous remarquons, c'est que, en général, du côté féminin, les femmes sont dotées d'une énergie, d'un don qui leur permet de développer et cultiver les rapports interpersonnels de manière plus profonde que chez les hommes. Nous voyons ça dès le début de la vie. Moi, j'étais, avant d'arriver à Fribourg, à part le fait que j'étais prof de lycée, j'étais vicaire dans des paroisses à San Francisco, et aux États-Unis, quasiment chaque paroisse a encore une école, de la petite maternelle jusqu'à la troisième. Et donc, je passais un certain temps dans la cour, à la récré, pendant l'heure du déjeuner avec les petits. Et ce qu'on remarque chez les enfants en général, c'est que très souvent, les petites filles se réunissent en cercle. Et les garçons sont plutôt dispersés très souvent. Et ce qu'on remarque chez les filles, par exemple, quand on est au lycée, prof au lycée, au niveau de l'adolescence, les filles se développent beaucoup plus rapidement que les garçons en ce qui concerne les capacités d'articulation, de parler, de communication. Donc ce que nous trouvons en général du côté féminin, c'est une capacité de développer des liens interpersonnels. Les femmes ont plus d'antennes que les hommes, en général. Les femmes sont plus sensibles aux dynamiques, les dynamiques sociales entre les personnes. Les filles se développent plus rapidement que les garçons et ont une capacité plus développée pour s'articuler, communiquer. Mais non pas simplement pour communiquer, mais pour communiquer de quoi ? De leur vie intérieure, de partager ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. au niveau émotionnel, psychologique, au niveau expérientiel, etc. De telle sorte que les garçons ont du mal, surtout pendant la jeunesse et l'adolescence, à exercer les mêmes capacités. Ça présente des épreuves assez importantes au niveau du lycée. Par exemple, si parmi vous, il y en a qui travaillent dans l'aumônerie des jeunes, et avec les retraites pour les jeunes, etc., ça présente des épreuves assez importantes au niveau du lycée, surtout, avec les garçons. On prend les jeunes en retraite, on les met par terre, on les demande de s'asseoir, on les met dans un cercle, et puis on leur demande de partager parmi eux ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et ce qu'on remarque, c'est que les garçons ont beaucoup, beaucoup de mal à faire ça. En fait, très souvent, les garçons sont assez incapables de faire cela. Mais les filles ont une capacité assez développée, déjà très jeunes. Elles peuvent partager de leur vie intérieure. Donc il y a un décalage entre les garçons et les femmes. Mais ça, c'est parce qu'à la base, le charisme féminin a une capacité exceptionnelle pour intégrer la vie, intégrer la personnalité, émotions psychologiques, spirituelles, intellectuelles et corps, et prochainement communiquer, d'en parler, partager ce qu'il y a à l'intérieur avec quelqu'un d'autre qui est en face. L'aventure féminine, en général, c'est l'aventure intérieure. L'aventure féminine, c'est l'aventure intérieure. Donc le côté féminin a une attention particulière pour ce qui se passe à l'intérieur et un désir particulier de partager cela avec quelqu'un d'autre. Partager de manière face à face. Les filles et les femmes, en général, se sentent beaucoup, beaucoup plus à l'aise dans les rencontres face à face. Ça soit déjà depuis un jeune âge, depuis qu'ils sont bébés. J'ai une amie qui m'avait passé un coup de fil il n'y a pas très longtemps. Elle avait très, très peur. Elle venait juste d'accoucher d'un petit garçon, après avoir eu quelques filles. Et puis elle était toute paniquée. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a avec mon garçon? Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Ben, il ne me regarde pas. Je l'ai dans les bras et puis il ne me regarde pas comme mes filles m'ont regardé quand ils avaient le même âge, quand elles étaient bébés. Ben, en fait, c'est ce qu'on remarque, ce qu'ont remarqué les scientifiques, c'est que les filles, déjà quand elles sont bébés, ont une capacité beaucoup plus développée pour fixer le regard face à face. Et que les garçons ont beaucoup plus de mal à faire ça. Le regard des garçons et des hommes, en général, est beaucoup plus distant et moins fixé que le regard des filles et des femmes. Ça s'assoit encore à l'école primaire. Les filles se mettent très souvent face à face dans la cour, tandis que les garçons sont plus dispersés. Et ça continuera le reste de la vie. Par exemple, parmi les couples mariés, de temps en temps, c'est souvent une femme vient me parler et me dit « j'aurais bien envie de prier avec mon mari, il en a beaucoup de mal ». Et je dis « ah, mais comment est-ce que vous faites ?» Je mets deux chaises, face à face, j'allume la bougie, et puis je demande à mon mari de s'asseoir en face de moi, qu'on se tienne les mains, qu'on se regarde profondément, l'un regardant l'autre, et puis ça marche. C'est parce que ça, c'est l'approche féminine, c'est le génie féminin d'établir un rapport intime et proche pour partager l'aventure intérieure avec l'autre. Ça va représenter un service essentiel que le charisme féminin, que la femme doit partager avec l'homme. Parce que pour devenir un homme mûr, qu'un garçon devienne un homme, il va falloir qu'il apprenne à intégrer sa vie intérieure. L'homme est à la base compartimenté. Ça sera toujours comme ça, beaucoup plus que la femme. Mais pour qu'un homme devienne pleinement homme, il va falloir qu'il apprenne à prendre compte de sa vie intérieure, de pouvoir mettre le doigt carrément sur ses émotions, de pouvoir en parler, de dire « ah, oui, je suis en colère. Oui, ça c'est la colère. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça c'est l'anxiété. Ça c'est je ne sais pas quoi. » C'est la femme qui doit aider l'homme, le garçon, premièrement c'est la maman, et puis prochainement la sœur, et puis finalement la femme, la mariée, qui doit aider le garçon à mûrir de telle sorte qu'il peut, premièrement, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, parce que ce n'est pas évident du côté masculin, d'en parler. La femme apprend à l'homme à communiquer. Quand j'étais prof de garçon dans des lycées jésuites aux États-Unis, les lycées jésuites en général sont encore unisexes aux États-Unis, tous des garçons. Et donc j'étais prof de jeunes en deuxième, première et terminale. Et c'est génial parce qu'en deuxième, ils ont quoi? Ils ont 15 ans. Et puis je dis, je pose une question. Et puis les garçons de 15 ans, ils savent. 35 jeunes garçons de 15 ans, beaucoup plus de mal. Et là, pourtant, quand j'étais à Marin Catholic, par exemple, où j'étais aussi prof en deuxième, première et terminale, je pose une question, et puis la fille, la main en l'air, et les garçons, ben, c'est normal. Et c'est un des aspects. Un des aspects de la vocation féminine en service du côté masculin, ça sera d'aider l'homme à développer une capacité d'intégration. Intégration des émotions avec le côté psychologique, intellectuel et le corps aussi. Et puis de développer la capacité de parler et de communiquer et de se poser tranquillement face à face. Face à face. Le genre féminin, donc, si le charisme féminin est caractérisé par une énergie, une puissance d'attraction, ça veut dire intégration, développement de liens interpersonnels, communication, et donc le genre féminin est le genre plutôt caractérisé par un esprit communautaire. Le genre masculin, le charisme masculin, est plutôt caractérisé par une disposition solitaire. Mais nous, les hommes, comme on le lit dans le livre de la Genèse, Adam était seul, il était solitaire, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas bien tout seul. Un homme qui reste tout seul pour toute sa vie, en général, ça ne va pas bien. Sans amitié, sans lien familial, etc., ça ne va pas bien pour les hommes. On voit ça déjà dans la Genèse. Aujourd'hui, encore une fois, aux États-Unis, aujourd'hui c'était dans l'État de la Floride, un jeune homme de 17 ans a fusillé ses camarades de classe et en a tué au moins 17 à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend de ce garçon? Il était isolé, il était solitaire, il était complètement désincarné, ce qui veut dire qu'il n'avait pas du tout... Il est encore vivant, donc on peut parler dans le... sens présent. Ce jeune homme n'a pas encore développé, n'a même pas commencé à entamer le procès d'intégration entre ses émotions, sa vie intellectuelle et son rapport à son corps. Dans la mesure où un garçon, un homme, ne reçoit pas l'aide d'une femme, des femmes, pour s'intégrer, l'homme devient un monstre. Il ne mûrit pas. Et certains parmi eux deviennent des vrais monstres qui vont tuer des personnes. Ces personnes sont toujours des hommes solitaires, isolés, qui sont complètement désintégrés dans leur vie émotionnelle, psychologique, intellectuelle et rapport avec le corps. Et qui ont du mal à communiquer. Qui ont beaucoup, beaucoup de mal à développer des liens interpersonnels. Aucune amitié. Parce qu'ils ne savent pas comment communiquer et ils ne savent pas de quoi communiquer. C'est un service très important qui commence dès le début de la vie. Récemment, un livre est apparu aux États-Unis, écrit par une psychanalyste de New York, Erica Commissar, un livre intitulé Being There, un livre très intéressant et me semble très important, où elle rassemble des découvertes scientifiques très importantes. Et ce qu'elle nous apprend, c'est que, en fait, le rôle de la maman vis-à-vis le bébé, dans les premières 3 années de vie, sont indispensables parce que le bébé, quand il est né, n'a pas encore développé, comment on dirait en français, le syndrome, le système nerveux central. C'est en français ? Okay. Les bébés sont carrément nés sans ça, sont nés sans faculté nerveuse. Et c'est la maman qui va apprendre au bébé comment sentir dans la vie. Comment ça? Principalement, comme ça nous dit, principalement parce que la maman, les femmes, produisent beaucoup, beaucoup plus de oxytocine. Comment on dit oxytocine? C'est pas si difficile que ça. Les femmes produisent beaucoup plus de oxytocine que les hommes. Et l'oxytocine, c'est l'hormone qui va passer à l'enfant à travers une touche, le regard, les caresses, les paroles, etc. L'oxytocine de la maman va passer à travers chez le bébé et va développer des neurorécepteurs, des récepteurs neuraux, pour que le bébé puisse développer son propre réseau nerveux. Mais ça prend 3 ans. Et Commissaire fait un lien entre absence de la présence maternelle et, surtout chez les garçons, plus tard dans la vie, développement de problèmes de caractère, d'émotion, manque d'intégration, etc. Le lien est très fort. Donc, depuis les premiers moments de la vie, il y a un service très important que le côté féminin partage, surtout avec les garçons et les hommes. Ça veut dire pourtant alors que du côté féminin, il y a une question centrale dans la vie. Il y aura une question centrale du côté féminin, une question centrale du côté masculin. Et la question centrale se rattache toujours avec le charisme. Si le charisme féminin est principalement caractérisé par énergie et don d'attraction pour intégrer, développer les liens, etc., la question centrale dans l'esprit d'une fille, dans l'esprit d'une femme, en anglais, ça se dit plus facilement en anglais. En anglais, c'est « Am I worth it ?» Est-ce que je vaux la peine ? C'est-à-dire, est-ce que je suis suffisamment jolie, intelligente, intéressante, etc., etc., pour quoi ? Pour attirer votre attention, votre regard. C'est ça la question centrale que posent les filles et les femmes. Ça se pose avec les filles très facilement. J'ai 3 frères qui ont tous des filles, c'est marrant. Dans la famille d'artistes, on n'était que des garçons, on n'est que des garçons, et puis mes frères ont eu des filles. Donc il y a des filles partout. Et maman est très contente. Et puis mes petites nièces, qui sont très mignonnes, ont l'habitude, quand je rentre aux États-Unis, pas très souvent, de s'habiller en robe ou en jupe, et puis de faire des... Voilà, c'est ça exactement. C'est la manière qu'une petite fille pose la question à la personne autour d'elle. C'est-à-dire, est-ce que je vaux la peine pour attirer votre regard ? Mais c'est la même question que posent les femmes qui sont adultes. Grande partie de mon travail aux États-Unis, c'est de travailler avec les couples qui sont en problème, en crise. Et très souvent, toujours, un élément essentiel de la crise dans le mariage, c'est que la femme ne sent pas que son mari est présent, suffisamment présent émotionnellement, psychologiquement, physiquement, que le mari est distrait, et trop souvent distrait avec le matel, l'ordinateur, le sport, la télé, je sais pas quoi, les hobbies, etc., dans son man cave, en train de faire je sais pas quoi, mais qu'il n'est pas suffisamment présent. Mais ça, c'est très blessant du côté de la femme parce que ça touche l'aspect essentiel, central du charisme féminin, qui est une énergie, une puissance d'attraction pour intégrer et développer des liens. Donc c'est la question centrale qui, donc, par suite, va entamer la crise féminine. Il y a la crise féminine, il y a la crise masculine. La crise masculine, et maintenant nous allons retourner au récit de l'apparition avec Marie-Madeleine. La crise centrale dans la vie d'une fille et d'une femme, c'est la crise du vide, de l'utérus qui est vide. C'est la crise du tombeau. C'est la crise de rupture de relation. C'est la crise de l'isolation. C'est la crise à travers une fille, une femme doit passer pour pleinement achever ou atteindre la maturité. Mais très souvent, comme Marie-Madeleine, nous, on ne réussit pas à passer à travers la crise comme l'a fait Marie, la mère de Jésus. Donc prenons l'exemple de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que nous voyons dans ce récit avec Marie-Madeleine ? Marie-Madeleine est en train de passer la crise. Elle a perdu le maître, elle a perdu Jésus, l'homme le plus important de sa vie, avec qui elle est entrée en relation très profonde. Donc tout cet aspect du côté féminin, elle retrouvait dans sa relation avec Jésus. Jésus avait posé son regard sur elle, Jésus avait consacré son affection et son temps à Marie-Madeleine, ils ont développé une relation très intime, et puis tout d'un coup, cette relation a été brisée. Elle a perdu la relation. Donc, ce que Marie-Madeleine vivait, c'était le vide intérieur, le vide de l'utérus. Le tombeau représente cela au niveau symbolique, mais pas seulement symbolique, au niveau concret aussi. Pourquoi est-ce que Marie-Madeleine et les autres femmes sont retournées au tombeau ? En partie, la motivation, c'est d'essayer de réétablir le lien, de réétablir la relation. Mais là, Marie-Madeleine entre pleinement dans la crise parce que, arrivée au tombeau, qu'est-ce qu'elle remarque ? Que le tombeau est vide. Il n'y a même pas le corps de Jésus. Elle ne peut même pas le toucher et à travers la touche avoir un sens de reprendre contact avec la relation. Elle a tout perdu. Elle est isolée. Elle a été abandonnée. Elle entre dans la nuit profonde, la nuit de foi du côté féminin. L'isolation et le vide intérieur. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus dans cette rencontre ? La rencontre avec Jésus et Marie-Madeleine. La première chose à noter, c'est que Jésus rencontre Marie-Madeleine face à face. C'est pas évident, ça. On va voir que l'apparition aux apôtres se déroule très différemment. Mais là, Jésus, qui est sagesse, qui est le créateur des hommes et des femmes, donc qui comprend l'esprit féminin, rencontre Marie-Madeleine face à face. Donc c'est le point de contact le plus évident pour le côté féminin. Il tourne le regard vers elle. Et prochainement, il lui pose une question. Marie, pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus prend contact avec l'aventure, la vie intérieure de Marie-Madeleine. Et c'est ça essentiellement ce que recherche le côté féminin. C'est que le contact soit fait, contact qui permettra un partage de vie intérieure. Jésus prend Marie-Madeleine au sérieux. Jésus répond à la question fondamentale que l'on retrouve dans l'esprit de Marie-Madeleine. Oui, tu vaux la peine. Je suis là, je tourne mon regard vers toi et je t'appelle Marie. Et je te pose une question par rapport à ta vie intérieure. Ce qui veut dire, je m'intéresse à toi. Je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je te prends au sérieux. C'est ça la validation que recherche Marie. C'est ça la validation que recherche le côté féminin. Et en général, c'est comme ça que Dieu prend contact avec les femmes. Plutôt face à face. Dans un partage de vie intérieure. À travers cette rencontre, Jésus tourne le regard vers Marie-Madeleine, Jésus lui pose une question par rapport à sa vie intérieure, et Marie reconnaît Jésus. La réponse affirmative à la question. Validation, guérison de la blessure intérieure du vide, de l'utérus vide. Mais Marie-Madeleine n'a pas encore passé la crise, parce qu'elle tombe. Elle est tentée, c'est la tentation féminine, qu'il faut faire attention. C'est la tentation principale féminine. La tentation du côté féminin, c'est de saisir. La tentation féminine, c'est la séduction. C'est la corruption du charisme. Si le charisme, c'est un charisme principalement d'attraction, la tentation féminine, c'est de s'accrocher, de saisir et de prendre vers soi. séduction, étouffement. C'est ce que peuvent faire les mamans avec leurs fils, principalement. La maman qui ne permet pas à son fils de descendre du genou et puis de grandir pour devenir un homme. La maman peut être tentée d'étouffer son fils parce qu'elle ne veut pas perdre le lien intime avec son petit garçon. Mais c'est mon petit chouchou. Mais mon petit chouchou doit grandir. Marie-Madeleine succombe à la tentation. Elle s'accroche à Jésus. Jésus lui dit, ne t'accroche pas. Non pas parce que Jésus la rejette, mais parce que Jésus veut aider Marie-Madeleine à passer à travers la crise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus est en train d'apprendre à Marie-Madeleine qu'il ne faut pas saisir, s'accrocher et tenir. Il faut permettre à son garçon, aux relations, de venir et passer, parce que Jésus, en fait, a envie de lui donner, d'entamer une nouvelle et plus profonde relation. Une relation qui prendra, qui rassemblera tout ce qu'il y avait de bon dans la relation, dans l'amitié antérieure, mais qui sera encore plus profonde et plus excellente. Vous voyez ? Marie-Madeleine a envie de retourner en arrière, mais Jésus veut qu'elle avance. Mais là, c'est la crise, c'est la nuit de la foi de la femme, parce que Marie-Madeleine doit faire confiance. Elle n'a pas encore reçu cette nouvelle relation. Il faut qu'elle fasse confiance, que Jésus reviendra, que Dieu re-rentrera en elle, que le vide intérieur sera rempli de nouveau, mais pas comme auparavant, mais de manière encore plus profonde et plus belle. C'est la crise à travers laquelle toutes les mamans doivent passer, toutes les femmes, en ce qui concerne les amitiés et les relations. Aux États-Unis, c'est une crise que je vois très souvent avec les mamans de garçons qui à la fin du lycée. Parce qu'aux États-Unis, en général, à la fin du lycée, on va à l'université, et puis l'université, c'est très très loin, parce qu'on veut quitter le foyer. Et donc, on est à San Francisco, pourquoi est-ce que tous les jeunes de San Francisco, tout d'un coup, veulent aller à New York, et tous les jeunes de New York veulent venir à San Francisco? Et aux États-Unis, le système universitaire est organisé de telle sorte que les jeunes logent à l'université. C'est un petit monde. C'est assez... c'est bizarre, dans un sens. Mais donc, 50 000 jeunes réunis pendant 4 ans, tout seul, à l'université. Et donc, très souvent, à la fin de l'année scolaire, et puis pendant l'été, c'est « Oh my gosh, Father Darley, comment est-ce que je vais faire? Mon petit chou me quitte, il va à New York, non, je ne peux pas le permettre. Il va rester avec moi. Je vais m'accrocher, parce que je vais perdre mon petit garçon. » Mais il faut pouvoir passer à travers, c'est seulement un exemple, mais un exemple qui est réel. Il faut permettre aux garçons de grandir, de partir à l'université, et avoir confiance que, en fait, plus tard, mon garçon va revenir vers moi. Cette fois-ci, espérons, un homme. Et tout ce qu'il y avait de beau et de bon et d'intime dans notre relation auparavant, quand le garçon était plus jeune, je le retrouverai plus tard dans mon fils qui est maintenant un homme, qui revient vers moi. Et ça sera encore plus beau, plus intime. Donc, il faut faire confiance. Comme Marie, la mère de Jésus. Je vous laisse cette image à la fin, qui va faire une transition au côté masculin. Prenez la sculpture de Michel-Ange, la Pietà. À Rome, si vous pouvez la mettre en tête. Le cadavre de Jésus sur les genoux de Marie, sa maman. Ironie diabolique, complètement diabolique, parce que Jésus est sur les genoux de sa maman. Ça rappelle quoi, ça? Ça rappelle toutes les années, tous les moments où le bébé Jésus était vraiment assis sur les genoux de sa maman, et le rapport intime entre Marie et son bébé. Jésus se retrouve sur le genou de sa maman. Son corps est là, mais il est mort. Le diable se moque de Marie. Et le diable est en train de tenter Marie. Marie est immaculée. Mais très souvent, on fait la bêtise de penser que du fait qu'elle était immaculée, elle n'avait aucune difficulté dans la vie où elle n'a pas été tentée. Mais en fait, Marie a été tentée plus que personne d'autre à part Jésus. Et là, c'était le moment ultime de la tentation. Le cadavre de son fils sur ses genoux, elle a tout perdu. Relation rompue. Jésus n'avait même pas d'enfant, donc elle ne pouvait pas se rattacher à ses petits-enfants et en regardant ses petits-enfants se dire « Ah, je vois le regard de ton papa ». Elle a tout perdu. Mais maintenant, regardez la main gauche de Marie dans la sculpture de Michel-Ange. La main gauche, bien sûr, c'est la main du diable dans la tradition. C'est la main diabolique. Quelle est la posture, la position de la main gauche de Marie? Ouverte. Complètement ouverte. Ça, c'est incroyable. Marie, la maman de Jésus, passe à travers la crise, dans les profondeurs de la nuit, et elle fait confiance, confiance en Dieu. Mais confiance en quoi? Confiance qu'elle retrouvera son fils. Elle ne sait pas comment, et elle ne sait pas quand. Parce que nous, bien sûr, on sait qu'il y a la résurrection 3 jours plus tard. On se dit, ok, il faut tenir, hein. 2, 3, pouf! Mais Marie, bien sûr, n'était pas du tout au courant. Donc chaque seconde était certainement une éternité. Elle avait tout perdu. Et elle ne savait pas comment et quand, mais elle faisait confiance en Dieu, que Dieu allait lui redonner cette relation, que Dieu allait lui redonner son fils, et que quand Dieu allait lui redonner son fils, qu'elle allait le retrouver encore plus vivant, et que la relation serait encore plus intime que ce qu'il y avait auparavant, avant la mort. Que tout ce qu'il y avait de bon auparavant, dans la relation antérieure, se retrouverait dans la nouvelle relation, mais de manière plus profonde et plus intime. Marie-Madeleine, ça se comprend, fait ça. Et Jésus doit lui dire, ne t'accroche pas, parce que si tu t'accroches, tu ne pourras pas recevoir la nouvelle relation plus profonde. Marie, la maman de Jésus, garde la main ouverte. Elle ne succombe pas à la tentation du diable. Et elle passe à temps. Et effectivement, Dieu le Père lui redonne son fils. Et elle retrouve tout ce qu'il y avait de bon et de beau, mais de manière encore plus profonde et plus belle, si ça peut se croire. C'est ça l'essence de la foi, du côté féminin. Faisons la transition maintenant au côté masculin. Et là, nous allons lire au chapitre 21 de Saint Jean, les premiers, je pense, 18 versets à peu près. Je sais pas.
Un micro.
Ah.
Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons nous aussi avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » À ces mots, « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barre, traînant le filet de poisson. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de gros poissons, 153. Et quoi qu'il n'y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et il le leur donne, et de même le poisson. Ce fut là la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts.
Ça suffit. Il y a plein à méditer là. Nous parlons d'une danse universelle entre le charisme féminin et le charisme masculin. Et c'est parce que, en effet, le charisme masculin est caractérisé principalement par une puissance, une énergie de projection, de génération. Encore une fois, nous prenons le corps de l'homme comme indice de la réalité spirituelle. Le sexe de l'homme est à l'extérieur, bien sûr. Et donc, ce que nous retrouvons, c'est une complémentarité profonde et belle entre les deux charismes. Puissance, pouvoir d'attraction du côté féminin, puissance, pouvoir de projection, de génération du côté masculin. Ce qui veut dire que, du côté de l'homme, l'aventure sera principalement une aventure extérieure, tandis que l'aventure féminine est une aventure principalement intérieure. Et dans la mesure où l'aventure masculine est à l'extérieur, ça oriente vers l'horizon. Et là, nous retrouvons le service très important que le côté masculin présente à la femme. Parce que, bien sûr, notre vie ici sur Terre, la maison que nous retrouvons ici sur la Terre, n'est pas la maison ultime à laquelle nous sommes destinés. Il faut qu'on passe de la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste. Ce qui va comprendre un trajet entre les deux et un passage à travers le désert. Ce qui va vouloir dire, pour venir au plus concret, si la ville terrestre de Jérusalem représente les relations, les amitiés, les intimités que nous développons ici sur Terre, dans la vie ici, pour faire le trajet d'ici jusqu'à la Jérusalem céleste, il va falloir, dans une certaine mesure, être prêt à, dans un sens, lâcher ou laisser passer les relations que nous avons développées ici pour que nous puissions nous mettre en chemin vers la Jérusalem céleste. C'est un chemin que personne d'autre peut faire pour nous. Le genre masculin est donc le genre plus solitaire. Le genre féminin est le genre communautaire. La femme aide le garçon à s'intégrer et à développer les liens qui vont l'apprendre comment vivre dans la Jérusalem céleste, parce que la Jérusalem céleste, c'est encore une vie de famille, donc de communauté. Mais pour arriver à la Jérusalem céleste, il faut aussi pouvoir passer à travers le désert de manière solitaire. Et ça, c'est parmi les dons que le côté masculin doit partager avec le côté féminin. Personne ne peut faire le chemin pour moi. Moi, je rencontre cela dans mon travail pastoral toujours, les personnes qui viennent me voir, qui veulent développer, approfondir leur relation avec Dieu, qui veulent mûrir dans la foi, etc. Ça va nécessairement comprendre des épreuves et des passages difficiles dans lesquels j'ai l'impression d'être tout seul. Je retrouve ça très souvent dans les couvents, chez les novices particulièrement. Les novices prennent beaucoup d'énergie, beaucoup d'encouragement dans la vie communautaire. Ça, c'est une bonne chose. La vie communautaire chez les religieuses est beaucoup plus importante que la vie communautaire chez les prêtres et chez les hommes religieux, en général. Et d'une part, c'est un don. Les jeunes novices se soutiennent énormément. mais éventuellement elles se rendent compte peu à peu que pour cheminer vers les vœux et après les vœux, que les autres sœurs, les co-novices, ne pourront pas faire ce parcours pour elles. Chaque novice, chaque femme, doit faire le parcours toute seule. Personne d'autre peut marcher d'une Jérusalem à l'autre. Donc le côté masculin et le côté de projection qui est plus capable de cheminer de manière solitaire, que ce soit même chez, par exemple, les singes, si on se retrouvait en Afrique et puis on voyait à l'horizon un chimpanzé, comment on dit chimpanzé ? Chimpanzé, voilà, c'est pas du tout. Et qu'on trouvait un chimpanzé tout seul en dessous d'un arbre, mais on était trop loin pour voir exactement si c'était un garçon ou une fille, pas de problème. On sait immédiatement que c'est un garçon. Parce que c'est seulement les garçons qui sont tout seuls. Les filles, les femmes sont toujours en groupe, en communauté. C'est toujours un solitaire garçon chimpanzé. Jamais une fille ou une femelle, si vous voulez. Donc, le côté masculin est plus compartimenté, est plus divisé à la base. Et ça, c'est parce que l'esprit masculin est plutôt orienté vers l'extérieur, la projection et la génération. Mais là, nous retrouvons aussi la question centrale alors du côté masculin. La question centrale de la vie, encore, se rattache toujours avec l'essence du charisme. Si le charisme masculin, c'est projection et génération, la question centrale dans la vie d'un garçon et d'un homme, c'est « Est-ce que je suis capable ? Est-ce que je suis capable ? Est-ce que, selon vous, je suis suffisamment fort et capable pour pouvoir me lancer vers l'horizon ? Pour créer quelque chose de nouveau ? Pour entrer dans une nouvelle région, pour entrer dans la jungle, si vous voulez, et avec mon couteau et mon épée, établir un chemin. C'est la question centrale qu'un garçon et un homme sont toujours en train de poser. Et c'est une question que, à la base, doit recevoir une réponse d'un homme. D'un homme qui, lui, a déjà passé à travers cette crise et qui a déjà trouvé sa validation comme homme. Là, on retrouve très souvent une difficulté dans la vie de couple. Je rencontre ça assez souvent aux États-Unis, ici en Europe. Dans la mesure où un homme n'a pas reçu une réponse positive, dans la mesure où un homme ne ressent pas à l'intérieur de lui-même qu'il est capable, qu'il est suffisamment fort, qu'il est un homme, une femme ne peut pas lui donner cette validation. Dans la mesure où l'homme n'a pas le feu de virilité en lui, qui lui a été donné par un autre homme, que ce soit son père biologique, ou un prof, ou un entraîneur, ou qui que ce soit, dans la mesure où le garçon ou l'homme n'a pas reçu ce feu de la virilité, la validation du feu de la virilité, la femme ne pourra pas le lui donner. Trop souvent, on retrouve des situations dans lesquelles un homme qui n'est pas encore mûr, qui a le corps d'un homme, mais qui n'est pas encore suffisamment homme, se met à la recherche de cette validation chassant les femmes, en descendant des loups, courir après les femmes. Okay. Si je couche avec telle ou telle femme, 50 femmes, 100 femmes, 200 femmes, 300 femmes, je trouverai enfin ma masculinité, ma virilité. Je trouverai enfin cette validation. Mais ça ne se trouve jamais comme ça. Parce que cette validation principale doit être donnée, partagée par un autre homme. Donc, nous voilà à la crise. La crise du garçon et de l'homme, c'est la crise de l'impuissance. La crise de la femme, c'est le vide, rupture de relation. La crise du côté masculin, c'est la crise de l'impuissance. Le garçon, dès le début de sa vie, doit commencer à apprendre à descendre du genou de sa maman et à commencer son chemin, à prendre distance. Et là, ce dont nous nous rendons compte, c'est que, en fait, dans une certaine mesure, le genre féminin, c'est le genre dominant dans la création. Ça, c'est assez souvent étonnant
quand on le dit. Mais dans une certaine mesure, c'est vrai que le genre féminin est le genre dominant. Ça se voit dans toutes sortes de petits détails, par exemple. Le chromosome Y, qui est le chromosome masculin, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que le chromosome X. Il y a beaucoup moins de gènes sur le chromosome Y que sur le chromosome X. La vie d'un garçon, ça commence où ? À l'intérieur d'une femme. Il est né à travers une femme. Il est nourri au sein d'une femme. Il est assis sur le genou d'une femme. Donc le garçon, depuis le début de son existence, est complètement entouré du féminin. Donc la crise dans la vie d'un garçon, d'un homme, si vous voulez comprendre les hommes, c'est ça, à la base. C'est le besoin de se séparer du féminin pour se trouver comme homme, et en se trouvant comme homme, pouvoir se retourner vers la femme et se rapprocher de la femme sans craindre que sa masculinité va être étouffée. C'est ça ce qui passe dans la vie d'un garçon et d'un homme. C'est pour ça que, par exemple, la crise des transgenres se trouve quasiment entièrement du côté des garçons. 9 sur 10. Parce que la crise du côté des garçons, c'est manque de séparation du féminin, manque d'intégration masculine, pour se retourner pleinement vers la femme et se réintégrer avec le féminin. Donc la crise de l'homme, c'est l'impuissance. Alors, retournons au récit de l'évangile de Saint Jean, chapitre 21. Jésus rencontre Marie-Madeleine comment ? Face à face. Ça, c'est le rapport particulièrement féminin. Jésus rencontre les apôtres comment ? Non pas face à face. Non pas à travers l'aventure intérieure, mais à travers l'aventure extérieure. Qu'est-ce qui se passe ? La scène. Jésus est où ? Sur la plage, comme au début de l'évangile. Et la première rencontre avec les apôtres, c'est la même chose encore. Mais on est tellement blessé que Jésus a toujours besoin de nous guérir, pour nous rassurer, pour répondre à nos questions. Jésus est sur la plage. Les apôtres sont où ? Dans la barque. En train de faire quoi ? De pêcher. C'est quoi ça ? C'est le monde du travail. C'est l'aventure extérieure. C'est le projet de génération, de production. Ça, c'est le charisme masculin. Un homme se trouve beaucoup, beaucoup plus à travers son travail que c'est le cas que pour les femmes. Les femmes se trouvent beaucoup plus, en général, à travers les rapports intimes, interpersonnels, familiales. Les hommes, beaucoup plus à travers le monde du travail, l'aventure extérieure. Donc Jésus nous rencontre, nous les hommes, principalement, non pas face à face, mais comme ça. The third angle, comme on dirait. Vous remarquez qu'en général, quand les hommes se parlent, les hommes ne se parlent pas comme ça. C'est inconscient. Mais les hommes et les garçons, en général, il y a toujours un décalage. Au moins un petit décalage, très très souvent. Et quand un homme est face à face à un autre homme, en général, ça ne va pas très bien. Ou si ça va bien, ça ne va pas durer. Et si ça dure, il y a un autre problème. Donc, il y a un décalage dans le rapport entre les hommes. Pourquoi ? Parce que l'intimité du côté masculin se développe principalement à travers une activité extérieure. C'est à travers un projet en commun qu'on développe des liens d'intimité avec un homme. C'est pour ça que je dis, j'ai une amie aux États-Unis là qui a trouvé un garçon. Ah oui, c'est carrément, je ne dois pas dire. Mais elle a trouvé un. Il est pilote. US Air Force. Nice. Ok. Donc je lui pose la question. Et quel genre d'avion est-ce qu'il vole ? Je sais pas. What ? You don't know ? Il faut savoir ! Mais pourquoi ? Parce que c'est sa vie ! Son avion, c'est sa vie ! C'est sa masculinité, sa virilité, son énergie, c'est son tout dans un sens. Tu veux développer un rapport d'intimité avec cet homme,
il faut le rencontrer à l'angle, comme ça. Face à face, beaucoup plus difficile, à l'angle. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus rencontre les apôtres à travers le travail. Mais il y a plus, on peut dire plus. Marie-Madeleine succombe à la tentation. Comment ? Elle s'accroche. Pourquoi ? Parce qu'elle essaie de reprendre, de remplir le vide, de rétablir le lien. Ça, c'est la tentation féminine. Quelle est la tentation masculine ? C'est l'impuissance. Ce que vous avez écouté le récit. Les apôtres jettent le filet. Qu'est-ce qu'ils attrapent ? Zero. Big whopping zero. Nada. Niet. Nil. Rien. Des hommes, des pêcheurs professionnels n'ont rien attrapé. C'est l'impuissance complète. Pourquoi ? Parce que ils sont en train de faire le chemin tout seuls. Ils ne font pas confiance. Ils sont retournés en arrière, eux aussi. Eux aussi, ils sont en train de retourner en arrière. Si la tentation féminine, c'est la séduction pour étouffer, la tentation masculine, c'est l'agression pour faire violence. Séduction, agression. Il faut que je montre ma virilité. Donc je vais frapper quelqu'un. Je vais détruire quelque chose. Je vais aller à l'école et fusiller tous mes camarades de classe. Ça, c'est la tentation masculine. L'agression, la violence. Comme ça. La femme s'accroche et l'homme fait ça. Tandis que Marie, la maman de Jésus, fait ça. Et Jésus, sur la croix, a la main ouverte. Dans le moment d'impuissance la plus profonde pour un homme, Jésus est cloué à la croix, nu. Cloué, qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne peut rien faire, il ne peut rien construire, il peut rien produire, il ne peut rien fabriquer. Ses mains sont clouées. Il est complètement impuissant. Un homme de probablement 40 ans, un homme dans la plénitude de sa vie, ne peut rien faire. Et au lieu de faire ça, les mains de Jésus restent ouvertes. Parce que lui, il fait confiance. Confiance que le Père, d'une manière ou d'une autre, va transformer cette impuissance apparente dans une virilité encore plus profonde que l'on puisse imaginer. Donc Jésus rencontre les apôtres, les rencontre à l'angle, si vous voulez, touche la blessure de leur impuissance pour la guérir, pour les réaffirmer, pour que maintenant ils puissent, avec une nouvelle virilité qui leur vienne de l'Esprit-Saint, parcourir le monde pour évangéliser. Donc nous avons les deux là, le côté féminin, le côté masculin. La question des deux, la crise des deux. Comment les deux s'aident ? Prends service l'un à l'autre. Pour qu'un homme puisse devenir pleinement un homme, il faut qu'il cultive son côté féminin. Un homme qui est pleinement viril et capable est un homme qui est intégré à l'intérieur, qui a développé son aventure intérieure, qui peut prendre contact avec ses émotions, qui peut en parler et qui n'est pas agressif. Une femme, pour qu'elle devienne pleinement femme, doit cultiver son côté masculin. Pour pouvoir s'engager, entamer une aventure à l'extérieur, elle aussi, dans le travail, dans la vie spirituelle, dans le monde, etc. Elle aussi doit développer ce côté masculin. Capacité d'être toute seule, en solitude, que ce soit au couvent, dans le mariage, à l'école, dans le milieu professionnel. Parce qu'elle aussi, elle est en train de cheminer vers la Jérusalem céleste. Elle aussi, elle passe à travers le désert toute seule. Personne d'autre ne peut le faire pour elle. Et il se peut, il est très probable, qu'en le faisant, elle va perdre des amis. Parce que la vie chrétienne est une vie exigeante, et surtout de nos jours, pas beaucoup de monde veulent suivre ce chemin. Donc une jeune femme, lycéenne, universitaire, même mariée, imaginez-vous une situation, combien de reprises je retrouve cette situation, une femme mariée vient me voir et me dit, Moi, je suis touché de l'Esprit Saint et j'ai envie de me rapprocher de Dieu, mais mon mari, aïe. Et donc, j'avance vers le Seigneur, mais en m'avançant vers le Seigneur, j'ai l'impression que mon mari reste derrière et je me sens de plus en plus seul. Alors ça, c'est pas évident encore. Donc les cris sont réels, très concrets, c'est pas juste au niveau symbolique. Mais on peut passer à travers parce que Jésus nous connaît, il sait où on est blessé, où on a besoin d'un soutien, il nous rencontre face à face ou à l'angle, il nous pose la question essentielle, il nous donne la validation dont on a besoin, il nous donne l'énergie, la grâce dont on a besoin pour qu'on puisse devenir plus pleinement homme et femme et tout atteindre la Jérusalem céleste. Okay. Merci.